Le monde en partage. Radio Centre-Ville. Thibaut Temmerman.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle demi-heure consacrée à l'actualité internationale. Peut-être avez-vous déjà entendu cette notion de l'information kilomètre, c'est-à-dire le fait que lorsqu'il intervient un événement, une catastrophe sur un point de la Terre, celui-ci va nous intéresser moins s'il est situé beaucoup plus loin géographiquement. D'une certaine manière, l'actualité récente nous illustre cette notion de l'information kilomètre puisque nous n'avons jamais autant parlé de ce pays pourtant très intéressant que sont les Philippines. Ce pays de l'Asie de l'Est, insulaire, a été touché par un très violent typhon, Haiyan, et à l'heure actuelle, on compterait au moins 5000 morts. Alors, nous n'allons pas nous contenter de parler de cette catastrophe, des conséquences, des besoins de la population. Nous allons en profiter pour essayer de mieux comprendre la société philippine dans son ensemble et les enjeux de ce pays et de la région. Et en dernière partie de l'émission, je vais vous parler du prix Sakharov, qui est beaucoup moins connu que le prix Nobel de la paix, mais qui mérite pourtant que l'on s'y arrête quelques instants. Mais pour leur place aux Philippines, et pour tenter de mieux comprendre ce pays, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Dominique Caouette. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et le directeur du Centre d'études de l'Asie de l'Est. Alors voilà, nous avons gardé en mémoire, puisque c'est bien sûr tout récent, les images de la catastrophe, ainsi que peut-être les témoignages qu'on a recueillis des Philippins suite au passage du typhon Haiyan. Alors on a affaire à un pays insulaire de près de 7000 îles, qui représente au total 300 000 km², donc c'est quand même une zone assez vaste. Est-ce que vous pourriez définir quelles zones ont été les plus particulièrement touchées par le passage du typhon?
En fait, la zone qui a été touchée, c'est ce que certains, un de mes collègues a réfère comme le corridor des typhons. C'est-à-dire, c'est une zone de passage traditionnelle de typhons qui est le centre du pays. On appelle la région les Visayas. Ce sont des îles qui sont relativement populeuses et qui sont, surtout du côté du Pacifique, sur le chemin des typhons qui se développent à chaque année. Habituellement, les typhons se développent, la saison des typhons commence juillet, août, septembre, octobre. C'est rare qu'on a des typhons d'une telle magnitude, c'est très, très, très rare. Et d'autre part, aussi tard dans la saison, c'est également rare. Mais c'est une région qui est traditionnellement frappée de façon régulière par ces tempêtes tropicales et par ces typhons.
Quels sont les besoins actuellement pour la population philippine? Je suppose des besoins en eau notamment, des besoins en nourriture également. On a entendu des scènes de pillage de magasins puisque dans certaines zones, l'aide tardait à arriver.
Il y a des besoins de trois ordres. Le premier, c'est les besoins de base, donc eau, riz, du sucre, du sel, de l'huile pour cuire, vraiment pour permettre aux gens de se nourrir. Le deuxième besoin, c'est les besoins en hygiène, donc de pouvoir avoir accès à des toilettes et à des traitements, des petites usines de traitement d'eau pour permettre d'éviter que les maladies contagieuses ou que le choléra ou d'autres maladies infectieuses se propagent et également de s'assurer qu'on puisse enterrer les corps de toutes les victimes. On est rendu maintenant, ce matin, on parlait de 5209 victimes, ce qui en fait le typhon le plus meurtrier dans l'histoire des Philippines. Le dernier en date était en 91, qui avait fait près de 5101 victimes. Donc c'est un typhon majeur, c'est un désastre humanitaire au niveau des victimes, et on a besoin de pouvoir enterrer les corps. Troisième type d'intervention, c'est au niveau psychologique. On commence maintenant seulement à évaluer les séquelles, entre autres chez les enfants, de la catastrophe. Donc, il y a des familles entières dont un membre a disparu et est décédé. Donc, dans les écoles, plusieurs ont été chez les enfants et chez les personnes âgées aussi, un trauma psychologique important. Et ça, on minimise souvent la partie émotive ou psychologique de ces catastrophes et elles sont majeures.
Vous disiez tantôt qu'il y avait vraiment une saison des typhons, que ce genre de catastrophe climatique, peut-être pas de cette ampleur, mais en tout cas, arrivait malheureusement assez fréquemment dans ce pays. Comment qualifieriez-vous la réaction des Philippins? Est-ce qu'ils sont plutôt résignés? Parce qu'on a senti malgré tout que dans les témoignages rapportés par les journalistes, les correspondants à l'étranger, que finalement la population gardait malgré tout le sourire. Mais peut-être qu'ils étaient aussi contents de voir que de l'aide leur parvenait.
Écoutez, les Philippines, c'est peut-être le peuple, j'ai pas fait le tour de la planète, mais dans les cultures que je connais, qui est les plus résilients. C'est-à-dire que c'est une culture qui passe à travers les catastrophes, les tragédies humaines et politiques avec le sourire. Et donc, c'est vraiment particulier. Les gens, ils appellent ça l'humour renversé. Souvent, ils vont tourner en humour une situation tragique. Donc, si votre mère décède, votre grand-mère, ils vont dire « Bravo, ta grand-mère est décédée », ce qu'ils appellent, c'est l'humour renversé. Et c'est à travers cette forme de résilience que les gens puissent survivre à travers toutes sortes de catastrophes. On a eu une dictature pendant près de 26 ans. On a eu des catastrophes. Il y a des et tremblements de terre et typhons. C'est le beau visage et les gens qui sont sur le terrain me disaient qu'on ne mettait pas assez l'accent dans les médias sur cette capacité de résilience que les Philippins ont, qui est une capacité tout à fait exceptionnelle. La même catastrophe ici aurait créé beaucoup plus de traumas. Les gens réussissent à passer à travers cette dimension humaine forte et ces réseaux de famille et de support importants. La face cachée ou l'envers du décor de la médaille, c'est que cette résilience-là, parfois, se transfère en une certaine forme de fatalisme, où on dit, c'est Dieu qui a voulu, ou il n'y a rien à y faire, et parfois, ça mène à une tolérance des abus politiques, et c'est ce qui est la face cachée ou le visage sournois de la gestion politique aux Philippines. C'est un pays qui est marqué par une grande corruption. Ce sont des réseaux de patronage importants et on peut s'attendre à ce que avec un afflux d'aide internationale, il y aura à nouveau ces tractations politiques. Et c'est souvent la partie la moins visible et peut-être la plus dramatique de cette résilience, c'est qu'elle s'accompagne par un certain fatalisme en disant « ça a toujours été comme ça » et la seule façon d'obtenir de l'aide des politiciens, c'est d'être dans leur clan ou d'appuyer ces réseaux de patronage.
Pour terminer un petit peu sur les conséquences à court terme de la catastrophe, est-ce que vous diriez que l'aide internationale a répondu suffisamment aux besoins de la population philippine?
C'est jamais suffisant, à mon avis. C'est jamais suffisant parce que ça prend du temps, il faut acheminer rapidement. Et c'est sûr qu'il y a eu une mobilisation importante de la communauté internationale. Les besoins sont beaucoup plus grands, mais les besoins étaient déjà immenses avant même la catastrophe. Les personnes qui ont été affectées vivaient dans des zones de vulnérabilité importantes. Ils étaient déjà pauvres. Et les gens qui avaient des maisons en ciment ou à plus qu'un étage ont pu se réfugier. Alors, donc, on a un peu l'ironie, c'est ce qu'Yvon Deschamps avait dit, c'est il vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. C'est un peu ce qui s'est passé dans les 5000 victimes et plus. Les gens qui se sont probablement des gens qui étaient déjà dans une situation difficile, qui vivaient dans des abris de fortune ou dans des zones déjà à haut risque. Et donc, est-ce que l'aide internationale est suffisante? Oui, mais est-ce que elle le sera sur le plus long terme? Non, parce qu'au fond, on doit développer des structures qui réduisent la vulnérabilité des gens. On doit s'attaquer aux questions de justice socio-économique. Et ça, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup moins reluisant pour les agences internationales que d'intervenir en distribuant des sacs de riz ou de nourriture qui font la une et que CNN va diffuser.
Nous allons parler, si vous voulez bien, de ces questions économiques et sociales dans la deuxième partie de l'émission, tout de suite après une première pause musicale.
Walang dahon, mga pusong di makakibo sa sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao. Pinatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago. Ngayon ang puso'y may takot sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo, ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupa ipinangako. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-rati ang mga ipon singlaya ng tao. Dati-rati ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang uwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan niyo ng luha ang apoy sa kanyang puso. Tingin niyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung inyong dadamhin kabilang sa inyo. Duol mga kaigsunan nung paminaw ka mo, doon ako'y dala ng mga bali tagikan sa banwa ko. Gusto ko nga'y pahibalo ang mga istorya nga nagakahitabo sa banwang bisad na to.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM. Nous parlons aujourd'hui des Philippines et je suis en ligne avec Dominique Caouette, professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et directeur du Centre d'études de l'Asie de l'Est. Nous avons parlé bien sûr des conséquences de la catastrophe du typhon Haiyan. Ce serait dommage de ne parler de ce pays uniquement en raison de la catastrophe qui l'a affecté. C'est un pays qui a subi de lourdes pertes au niveau agricole. Or, les Philippines, c'est tout de même un important producteur de riz. C'est un pays qui a connu une révolution agricole. Est-ce que vous diriez que cette catastrophe va être de nature à peut-être repenser encore la production agricole? Parce que c'est un pays qui, me semble-t-il, vous allez le confirmer, qui est encore marqué par une forte propriété foncière.
En fait, la réponse à votre question, elle est en deux temps. Non et oui. Non, parce que les zones au niveau de l'importance de la production agricole, ce sont des régions qui ont été frappées. Ce ne sont pas les greniers de riz des Philippines. Ce ne sont pas les régions qui produisent de quantités massives pour l'exportation. Elles produisent, oui, du riz et du sucre, mais c'est peu en proportion de d'autres régions qui sont beaucoup plus productives. Par contre, la question du foncier, oui, elle reste tout à fait d'actualité. Un des grands problèmes des Philippines et qui reste toujours présent, c'est la question de la propriété terrienne. Les terres sont encore concentrées aux mains de grandes oligarchies familiales et malgré les efforts de mettre en place une réforme agraire, cette concentration existe toujours et à cela s'ajoute depuis quelques années des acquisitions massives venant d'investisseurs étrangers, entre autres malaisiens pour les palmiers à l'huile, aussi chinois pour la production de biocarburants. Et donc, la dynamique foncière, elle connaît un nouveau saut qualitatif qui est maintenant de savoir qui, ce sont plus seulement les grandes oligarchies terriennes traditionnelles qui sont sur le terrain des Philippines, mais bel et bien un ensemble d'acteurs beaucoup plus large qui s'intéressent aux terres, qui sont des terres, les Philippines ont la chance d'avoir des terres qui sont relativement riches et pas de problème d'eau jusqu'à maintenant. Il y a le problème de la déforestation et ça explique également le nombre de victimes. C'est-à-dire que les zones touchées, Samar, Leyte, entre autres, et le nord de Panay, sont des zones qui ont été déforestées de manière importante. Et donc, les glissements de terrain, l'érosion des sols est une problématique majeure. Et on revient à nouveau au pouvoir, aux capacités de l'État. Est-ce que l'État est capable de mettre en place une réglementation qu'elle a votée et vraiment de s'assurer qu'on protège les zones, les bassins de rétention d'eau pour éviter ces genres de catastrophes? Et deuxièmement, est-ce que l'État est capable d'assurer, de mettre en place des politiques de réforme agraire? Et pour l'instant, ça semble être plutôt négatif. C'est-à-dire qu'on a un président qui a promis d'être élu sur la base de pas de corruption, il n'y a pas de pauvreté. Si on résout le problème de la corruption, on résout les problèmes de pauvreté. Pour l'instant, ce discours l'a fait élire, mais jusqu'à maintenant, il est confronté à un appareil complexe et qui est relativement faible dans les secteurs clés de l'économie.
Parce que effectivement, ce genre de catastrophe est de nature à s'interroger sur la capacité du pouvoir politique. Ça peut être une occasion de remettre en cause la compétence des autorités politiques. Est-ce que justement ces autorités politiques ont été critiquées? Parce que je lisais dans un article de la presse dans lequel vous êtes intervenu par ailleurs que, en plus de cette discussion, de ce débat sur les compétences des autorités politiques, se greffait le débat, j'allais dire même la dispute pluridécennale entre des familles, des dynasties d'hommes politiques.
Oui, en fait, c'est un peu l'héritage du colonialisme américain. Les Philippines, autre caractéristique, ont connu trois colonisations. La colonisation espagnole pendant 300 ans, la colonisation américaine pendant près de 50 ans et un épisode de colonisation japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a cette architecture complexe de colonisation à répétition a mené à un système politique particulièrement complexe et on a cherché à copier le système américain où le pouvoir est fragmenté et régionalisé. Et donc, le pouvoir central reste important, mais à tous les niveaux. Et on a des élections au niveau municipal, des élections au niveau provincial, au niveau régional, au niveau national. Et donc, c'est tout un appareil, toute une machine politique qui rend la capacité d'agir complexe et difficile parce qu'il y a des groupes d'intérêts qui se constituent à tous les niveaux. Et ce qu'on a vu encore récemment, c'est des stratégies familiales où on élit un oncle au Congrès, un maire, c'est son père, et le fils commence déjà comme gouverneur d'une province. Et donc, on le voit et c'est d'autant plus ironique que l'île qui a été frappée l'été, c'est le territoire, si vous voulez, de l'ancienne épouse du dictateur Marcos, Imelda Romualdez, et son fils est gouverneur, elle est représentante au Congrès. Donc, l'épouse du dictateur dont on avait parlé de ses souliers plus que de ses capacités de gouvernance, elle est élue encore. Et donc, il y a véritablement un problème, il y a vraiment un défi au niveau de la mise en place de structures étatiques, une capacité étatique d'agir rapidement. Et pour l'instant, et ça reste encore une question non résolue. Est-ce que ça sera la crise qui, en sciences politiques, on le voit, les crises parfois mènent à des changements de nature structurelle. Est-ce que cette crise mènera à un changement de nature structurelle ou sera finalement résolue de la façon dont on a fait souvent, c'est-à-dire une forme de populisme des et au fond, les élites dominantes réussissent à s'adapter à nouveau à la crise et se chercher du capital politique à nouveau.
J'ajoute que le père de l'actuel président a été victime justement de la violence de la dictature Marcos, ce qui explique aussi ce genre de dispute encore entre certaines familles politiques, familles vraiment au sens propre du terme, au terme de dynastie politique. Dominique Cahouet, je voulais vous poser une dernière question. On a vu que la Chine avait apporté également son aide aux Philippines. Or, il se trouve que existe des tensions maritimes entre la Chine, les Philippines, les Malaisies également. Est-ce que c'est une main tendue de la Chine vers les Philippines?
Elle est tendue à moitié parce que l'engagement de la Chine, à moins qu'ils aient augmenté. Jusqu'à récemment, c'était relativement modeste comparativement à d'autres pays. C'est une main tendue à moitié en disant on est prêt à vous aider, mais en même temps, on est conscient qu'on pourrait le faire plus si on pouvait avancer sur la question de la mer méridionale. Et là, on touche vraiment quelque chose qui est crucial parce que ça va au-delà d'une catastrophe naturelle. Ce sont les îles et les récifs qui sont dans la mer de Chine, la mer méridionale, où jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas résolu les questions de propriété ou les questions de souveraineté sur ces îles et qui a la souveraineté exclusive et donc la capacité d'utiliser les ressources naturelles qui se cachent au fond sous les récifs parce que sur une carte, on regarde, vous iriez sur la mer, ce sont des petits îlots de coraux, ce sont des petites îles, ce sont ce qui semble anodin, quelques pêcheurs y vivent ou s'arrêtaient pour pêcher et revenir vers le continent par la suite, mais on a découvert récemment et il y aurait des réserves importantes d'hydrocarbures. Donc avec la Chine en pleine émergence, la Malaisie, le Vietnam et même les Philippines qui ont des trous de croissance importants, vous pouvez vous imaginer que l'accès à ces ressources-là est importante. Et donc, il se joue un jeu géopolitique qui est beaucoup plus profond et qui a des conséquences régionales importantes et qui est qui pourra exploiter ces ressources. Avec un collègue, on avait proposé, un peu comme on veut faire un article dans certaines parties de l'article, où on aurait une gestion partagée des ressources. Évidemment, le défi, c'est que la Chine est beaucoup plus grosse que ses pays voisins, donc elle pourrait dire pourquoi une gestion partagée lorsque nous sommes les plus gros et lorsqu'on avait compris que ça faisait partie de notre territoire national. Et donc, le jeu politique qui se passe derrière cette crise ou l'offre, la main tendue de la Chine à moitié tendue, c'est ce jeu-là.
En tout cas, cela mériterait certainement toute une émission complète pour parler de la géopolitique de cette zone-là. Mais je vous remercie en tout cas de nous avoir permis de mieux comprendre les Philippines et les enjeux sociaux et politiques qui la touchent. Merci beaucoup, Dominique Caouette.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Eh bien, nous allons passer à une autre pause musicale et à un autre sujet de cette émission. Vous êtes la dernière partie de l'émission et je voudrais évoquer avec vous l'existence du prix Sakharov pour l'esprit. Alors vous connaissez bien plus certainement le prix Nobel de la paix qui, cette année, je le rappelle, a été remis à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Cette organisation internationale, qui a été fondée en 1987, est chargée de la mise en œuvre et de l'application de la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques, signée le 13 janvier 1993. Alors il y a eu une mini polémique au sujet de la remise du prix Nobel de la paix à cet organisme qui est chargé de superviser le démantèlement de l'arsenal chimique du régime syrien, et le comité du prix Nobel s'est senti obligé de justifier que ce prix avait été remis à l'Organisation internationale pour le démantèlement donc des armes chimiques, non en raison de la Syrie, mais en raison de son travail depuis déjà donc près de 20 ans. Certaines personnes ont été déçues par la remise de ce prix et s'attendaient à ce que ce soit la jeune pakistanaise Malala Yousafzai qui l'emporte. Eh bien, sachez que Malala Yousafzai a obtenu un prix, elle a obtenu le prix Sakharov pour l'esprit. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un prix qui est remis, là aussi, chaque année par le Parlement européen, qui, je le rappelle, est la seule institution démocratique internationale élue au suffrage universel direct, donc par les citoyens. Et ce prix Sakharov pour la liberté de l'esprit récompense chaque année des personnalités ou des collectifs, des institutions qui s'efforcent de défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Eh bien, Malala Yousafzai a été récompensée pour son courage, pour avoir défendu le droit des filles à avoir une éducation, à aller à l'école, et pour son combat. Elle en a payé le prix très fort puisque, comme vous le savez, elle a été victime d'un attentat duquel elle a heureusement survécu et aujourd'hui elle peut témoigner dans le monde entier du combat qu'elle mène. Et dès lors, cette récompense décernée par le Parlement européen est amplement méritée. Parmi les récipiendaires du prix Sakharov, on compte l'opposante birmane Aung San Suu Kyi, qui l'a reçu en 1990. Il y a également le dissident cubain Guillermo Fariñas, qui l'a obtenu en 2010, mais également l'ONG russe Memorial en 2009, ainsi que le dissident chinois Hu Jia en 2008. Hu Jia qui, régulièrement, est gardé en résidence surveillée par les autorités chinoises en raison des combats qu'il mène. Et je rappelle ce fait parce que le mardi 12 novembre, les nouveaux membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont été élus. Et parmi eux, eh bien, on compte la Russie, Cuba, l'Arabie Saoudite et la Chine. En telle compagnie, nous pouvons être certains que nos droits seront bien sûr respectés. D'ailleurs, Human Rights Watch s'inquiétait du fait que les défenseurs des droits de l'homme vont avoir beaucoup de travail à mener sur ce Conseil des droits de l'homme pour que les droits de l'homme soient justement respectés. Il y aura sans doute encore besoin de beaucoup d'Andrei Sakharov et de beaucoup de Malala Yousafzai. C'est déjà la fin de cette émission Le Monde en Partage, mais tout d'abord je voudrais vous rappeler que dans le cadre de la campagne d'autofinancement de Radio Centre-Ville, l'équipe hispanophone vous invite à son événement Reventón Radiofónico. Alors cela aura lieu le 29 novembre au 72 16 Saint-Hubert, près du métro Jean Talon. De nombreux artistes hispanophones seront présents et vous pourrez y savourer des vins chiliens. Alors n'hésitez pas à vous y rendre. De toute manière, toutes les informations concernant cet événement ainsi que l'émission d'aujourd'hui seront bien sûr sur notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com. La semaine prochaine, donc, nous fêtons les 40 ans de Radio Centre-Ville et à cette occasion, j'espère vous présenter une émission spéciale avec un invité spécial. C'était Thibaut Temmermann, merci à tous de votre écoute et je vous dis donc, portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville.